Anne Lemoyle.
La deuxième vague est donc bien là, avec son lot de nouvelles restrictions. Couvre-feu pour 20 millions de Français, heures de visite parfois réduites dans certains EHPAD. Bonjour Marie de Henzel.
Bonjour.
Psychologue clinicienne, merci beaucoup d'être avec nous ce midi sur Europe 1. Ça fait des années que vous menez une réflexion sur la fin de vie en accompagnant malades, soignants, familles. Vous publiez un livre, je dois dire, bouleversant, « L'adieu interdit chez Plon ». Vous y racontez notamment ces échanges avec des familles qui, pendant le confinement, n'ont pas pu dire un dernier adieu, au revoir à leurs proches en EHPAD ou en soins palliatifs, car il fallait faire barrière au virus. À l'époque, les masques, les surblouses manquaient. Vous parlez aussi du cauchemar d'inhumanité pour bien des soignants qui n'ont pas pu laisser ces familles dire au revoir à leurs proches. La deuxième vague est là. De nouveau, il faut éviter que le virus ne se propage. Est-ce que vous redoutez ces nouvelles restrictions et cet isolement, dites-vous, qui a tué et qui tue?
Alors, je crois qu'il faut être très vigilant, parce qu'effectivement, la peur peut dominer. Et ce que je montre dans le livre, c'est qu'il y a une frontière très nette entre des lieux, des maisons de retraite où la peur a dominé sur l'humain, et où il y a eu effectivement des restrictions, je dirais, qui étaient des empêchements de visite, alors même qu'il n'y avait aucun fondement juridique. Hein. Et puis, d'autres lieux dans lesquels on a agi avec humanité et intelligence, c'est-à-dire qu'on a essayé d'adapter ces consignes en étant au plus près des cas particuliers. Et là, nous sommes actuellement, il y a un protocole d'encadrement des visites dans les EHPAD, et il est sûr qu'il y a des personnes qui vont, je dirais, appliquer ce protocole avec intelligence et humanité, et puis d'autres peut-être qui vont être très rigoristes.
Et ceux qui sont très rigoristes, Marie de Henzel, puisque vous dialoguez, oui, vous travaillez avec les maisons de retraite, qu'est-ce que vous leur dites?
Non, je ne travaille pas avec les maisons de retraite. Là, j'ai été pendant le confinement en plateforme de soutien des directeurs d'EHPAD, mais je ne travaille pas avec eux. Je travaille plutôt avec des résidences-services dans lesquelles il y a des personnes âgées, mais qui sont chez elles, hein, dans des résidences, qui sont des personnes de 80 à 100 ans. Donc non, je leur parle à travers, je dirais, mes interventions, comme aujourd'hui, à travers mes
Et vous leur dites quoi alors?
Ben, je dis qu'il faut, et je suis en relation avec quelques directeurs d'EHPAD, effectivement, qui sont très humains et qui essayent justement de... C'est un équilibre difficile entre la protection et la liberté. Hein. C'est pas facile, parce qu'ils ont d'une part quelquefois des familles qui leur reprochent de ne pas être assez rigoristes, et puis d'autres qui, au contraire, leur reprochent de ne pas les laisser... entrer dans les chambres et visiter leurs parents âgés. Donc, moi, ce que je dis là, c'est qu'il faut qu'il y ait un dialogue. Il faut absolument que l'on puisse parler, il y a des cas particuliers, les directeurs d'EHPAD doivent s'adapter aux cas particuliers. Une personne, par exemple, qui est dans sa chambre, qui ne peut pas se déplacer dans un lieu collectif pour rencontrer un proche, comme la plupart des EHPAD sont en train d'organiser cela, il faut que la famille puisse entrer dans la chambre, avec bien sûr toutes les mesures barrières qui s'imposent. Donc il y a une adaptation qui demande du dialogue, qui demande aussi de ne pas être, je dirais, envahi par la peur, parce que je crois vraiment que dans certains lieux, la peur domine tellement que l'on finit par, je dirais, par prendre des mesures qui sont... qui sont
inhumaines. Vous parlez beaucoup d'inhumanité, justement, ce qui s'est passé justement pendant cette période de confinement.
Alors, je ne pense pas que ce qui s'est passé au printemps revienne. Non.
Mais vous dites qu'il va en rester des traces, justement, parce que vous parlez, hein, dans votre livre, de ces soignants qui ont dû interdire parfois ce dernier adieu, de voir le visage du défunt, et qu'il y a ces traces qui restent. Oui. Et chez les soignants aujourd'hui, est-ce qu'ils sont prêts d'ailleurs à repartir au combat?
Je crois que les soignants ont beaucoup souffert. Je crois qu'ils ont été... il y a un stress post-traumatique chez beaucoup d'eux. Je pense qu'ils sont épuisés. C'est une réalité. Hein. Ça a été très difficile, je dirais, quand ils n'avaient pas de quoi se protéger, pas de masque, pas de blouse au début. Hein. Ils ont été obligés d'appliquer des mesures qui sont à l'encontre de leurs valeurs de soins. Donc c'est très difficile et je pense que beaucoup d'eux sont en détresse psychologique. Ça, il faut le savoir. Il y a aussi toutes les familles qui n'ont pas pu dire au revoir, qui elles vivent des deuils très difficiles, quasiment impossibles à faire, avec beaucoup de dépression, de culpabilité, de tristesse, de colère aussi. Hein. Et j'ai d'ailleurs dans ce livre une lettre aux endeuillés où je m'adresse à toutes ces personnes pour essayer de les aider.
Et vous dites que la période de la Toussaint qui arrive va être justement d'autant plus importante car parfois des funérailles n'ont pas pu avoir lieu pendant le confinement et que là, il va pouvoir y avoir ces secondes funérailles.
Alors, on peut faire des funérailles différées. Bien sûr, ça ne remplacera jamais les funérailles, mais on peut se réunir. J'ai d'ailleurs assisté la semaine dernière à des funérailles, un hommage différé à Patrick Devedjian, qui est cet homme politique qui est mort pendant au début du confinement. Et j'ai trouvé que c'était un très bon exemple où toute la communauté arménienne s'est réunie dans l'église arménienne à Paris, autour de la famille, il y avait des hommes politiques qui étaient là aussi, et on a rendu hommage à cet homme. Et je crois que ça, toutes les familles peuvent l'organiser à leur manière, chez elles ou dans une église, pourquoi pas, ou dans un autre lieu, enfin dans un jardin. Hein, on peut organiser des funérailles différées.
Un dernier mot, Marie Duhenzel, c'est très fort dans votre livre, ça revient effectivement, cette urgence sanitaire qui nous a conduit parfois à l'inhumanité, parce qu'il y a ce tabou pour vous de la mort, ce déni qui atteint son paroxysme avec cette épidémie.
Oui. Parce que je crois qu'il y a, j'ai une formule qui ne vient pas de moi d'ailleurs, qui était de Louis-Vincent Thomas, qui était un anthropologue il y a 30 ans, qui écrivait beaucoup sur les rites de la mort. Il disait, nous sommes dans une société thanatophobe et mortifère, qui a peur de la mort et qui porte la mort. C'est-à-dire que toutes ces mesures censées protéger la vie biologique, le corps, ne protège pas la personne, au contraire lui nuit, parce que la vie est aussi affective, elle est aussi sociale, elle est spirituelle, elle est démocratique, tous ces aspects ne sont pas pris en compte.
Et vous nous dites attention aujourd'hui à ne pas tomber justement dans cette urgence sanitaire et garder notre humanité, et vous dites d'ailleurs de très beaux mots, je terminerai avec ça, les infirmières qui ont été les sentinelles de l'humanité pendant toute cette période. Merci beaucoup, Marie Duhenzel, d'avoir été avec nous ce midi sur Europe 1. Je rappelle le titre de votre livre, qui est aussi une leçon de vie, L'adieu interdit aux éditions Plomb. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi sur Europe 1. Vous le savez, on poursuit cette tranche d'information.